Bonsoir.
Tribune de la presse de ce soir se penche uniquement sur le discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès mercredi dernier. Comme vous le savez, Joseph Kabila, lors de ce discours, a annoncé la mise en place pour bientôt d'un gouvernement de cohésion nationale. Il a également annoncé la signature d'une ordonnance portant grâce présidentielle en faveur de certains prisonniers. Il a aussi annoncé la nomination d'un représentant spécial chargé de lutter contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants soldats, ainsi que d'un conseiller spécial en charge de la lutte contre la corruption. Tels sont les aspects de ce discours sélectionnés pour le débat de ce soir dans la Tribune de la presse. Autour de cette table, nous avons Harold Bellarmé Badibanga, il est secrétaire de rédaction au journal L'Avenir, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Harold Bellarmé Badibanga.
Bonsoir estimé confrère, bonsoir aimable auditeur.
Innocent Kabukala, il est coordonnateur de Global Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Innocent Kabukala.
Bonsoir Guimaté, bonsoir aussi aux auditeurs de la radio Capi.
Et Dimanche Kamate, il est journaliste à la radio communautaire Moto Oicha, émettant depuis Beni au Nord Kivu. Bonsoir Dimanche Kamate.
Bonsoir, cher confrère Guimaté, bonsoir à tous les auditeurs de la fréquence de la paix.
Bienvenue à tous dans cette émission. Gouvernement de cohésion nationale, mesures de grâce en faveur de certains prisonniers, autant des décisions annoncées au cours de ces discours. Comment la presse a analysé les différents aspects de ces discours? Écoutons cette revue de presse que nous propose Kelly Nkouté.
Bonsoir. Le discours du chef de l'État mercredi devant le Congrès défraye la chronique et chacun y va de son pan de commentaire. L'Avenir nous informe que Joseph Kabila annonce bientôt un gouvernement de cohésion nationale. Au nombre des mesures annoncées par Joseph Kabila, la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Ce gouvernement comprendra aussi bien des représentants de la majorité que ceux de l'opposition et de la société civile. L'observateur confirme que le chef de l'État n'a pas précisé la date de la formation de ce nouveau gouvernement. Mais toujours est-il que sa formation interviendra dans un délai relativement bref. Ce gouvernement aura pour mission la restauration de la paix et l'autorité nationale, la consolidation de la cohésion, la poursuite de la reconstruction nationale, l'appui à la décentralisation, l'organisation des élections et l'amélioration des conditions de vie de la population. Outre le gouvernement de large ouverture, le chef de l'État a promis de s'investir personnellement dans la lutte contre la corruption, nous apprend le potentiel. La lutte contre la corruption est le thème sur lequel Joseph Kabila a promis de s'engager à fond. Africa News pense que le discours de Kabila met un terme au suspense sur les perspectives électorales. Dans son discours, le chef de l'État a tordu le cou à toutes les rumeurs qui lui prêtaient des intentions. Il s'est gardé d'échanger la Constitution. Forum des As, qui publie dans son intégralité le discours du chef de l'État, pense que Kabila dessine un nouveau Congo. Le phare qui rame à contre-courant contre cet optimiste relève que le Congolais moyen reste sceptique face au discours du chef de l'État. Les Congolais moyens veulent bien croire Joseph Kabila lorsqu'il clame qu'il faut que les hommes changent positivement dans ce pays. Cependant, les antivaleurs ont tellement la peau dure qu'il a du mal à sortir de son scepticisme. La tempête tropicale enfin affiche également un enthousiasme modéré et estime que Joseph Kabila sera jugé aux actes.
Merci Kelly Nkouté. Un commentaire à Harold Bellarmé Badibanga. Vous êtes secrétaire de rédaction au journal L'Avenir. C'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la reprise des combats ce matin entre les FRDC et les M23 à Kanyamaoro, territoire des Nyiragongo, au Nord Kivu.
Oui, moi j'ai toujours dit que le chef de l'État avait si bien dit qu'il fallait ou qu'il faille mettre en place les trois options, l'option militaire, politique et diplomatique, et que lorsque nous nous rendons compte qu'à Kampala, il n'y a pas eu négociation, mais il n'y a eu que dilatoire de la part du M23. La meilleure façon de rendre coercitif le pouvoir qu'ont les FARDC et le pouvoir de Kinshasa, c'est d'attaquer et d'y aller par la force militaire. Lorsqu'on sait que sur le plan politique, Kabila, à travers les concertations dont Kelly Nkouté a parlé dans sa revue de presse, on a vu sa volonté politique d'arranger les choses, et sur le plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Chimamanda Ngamulu, on sait faire preuve de ce dont il est capable. Maintenant, devant les dilatoires, devant le bellicisme, devant la masturbation politico-intellectuelle du M23 qui n'attend que des décisions du Rwanda, je crois que si on laisse ces manœuvres continuer, on n'aura jamais la possibilité de sauver nos frères et sœurs qui sont à l'est de la RDC, étant donné que l'intention première du Rwanda à travers le M23, c'est de garder les territoires déjà conquis éternellement sous leur gouvernement. Donc, je salue que les affrontements aient recommencé et j'appuie les FARDC d'aller outre-Petite pour que même un seul pas du territoire national ne soit sous occupation rebelle, ougando, rwando, burundaise.
Innocent Kabukala, je rappelle que vous êtes coordonnateur de Global Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Dans deux lettres publiées ce vendredi matin et adressées au président Kaguta Museveni, le M23 exige notamment le retour de Laurent Kunda en RDC et refuse d'être cantonné loin de la province du Nord Kivu.
Oui, mais ça me fait sourire. Simplement parce que le problème, nous avons toujours décrié Kinshasa. C'est bien que Harold ait salué la bravoure, comme d'ailleurs tout Congolais prie le paix des FARDC. Mais le problème, c'est que le gouvernement de Kinshasa ne semble pas comprendre ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est faire fi de ce genre de revendications. Simplement, c'est préoccuper de la protection de son territoire et de sécuriser la population, un point barre. Donc, on n'a plus rien à faire. Il faut y aller par la force, gagner militairement, tout simplement. On n'a pas de choix, on n'a pas à tergiverser parce que les allégations du M23, qui peut prendre ça au sérieux? Mais on sait que tout simplement, c'est parce que le M23, Harold l'a rappelé, hein, le M23, commandité bien entendu par le Rwanda, a pour mission de fragiliser cette partie de la RDC, c'est la seule et l'unique mission. Ça n'a rien à voir avec toutes les revendications qu'on a entendues il y a une année et qu'on continue d'attendre. Donc ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que Kinshasa doit se montrer réellement responsable. C'est pour cela que d'ailleurs vous avez entendu, hein, vous avez suivi dans la revue de presse de notre consoeur, qu'il y a un scepticisme dans la population. Mais c'est justement à cause de ce genre de choses. Donc Kinshasa devait comprendre que c'est un signal fort. Il faut pas tergiverser. Il faut prendre plutôt les taureaux par les cornes et agir en responsable.
Merci. Dimanche Kamate, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio communautaire Moto Oicha, émettant depuis Beni au Nord Kivu. Le M23 demande d'être cantonné dans les zones du retour des réfugiés parce que selon le M23, la plupart de ces soldats n'ont pas vocation à réintégrer les FARDC. Et s'ils sont devenus soldats, c'est par nécessité sécuritaire. Ils se battent pour sécuriser leur milieu d'origine et pour le retour de leurs parents réfugiés dans les pays voisins.
Mais chers confrères, nous qui vivons à l'est du pays, nous sommes vraiment fatigués de ces comportements que le pouvoir de Kinshasa est en train de manifester. Celui qui a dit ça, il peut présenter sa lecture des faits. Mais nous qui vivons dans la partie est du pays, nous sommes obligés de comprendre que ce plat de balkaniser le pays est déjà effectif. Parce que on ne peut pas comprendre, chers confrères, plus de 9 mois après de dialoguer à Kampala, ça ne produit rien. On dit voilà, les combats ont commencé, les combats se sont encore arrêtés, mais on ne parvient pas à comprendre. Alors, nous posons cette question de savoir, est-ce que Kinshasa est devenu une république et l'Est du pays est déjà séparé de Kinshasa? Donc, consiste de distraire la population de l'Est avec CG, des vins et années, on avance des pas, on recule des nôtres, et finalement on se dit, est-ce qu'on est en face des gens qui se soucient de la population de l'Est du pays? Et donc, moi, qui me retrouve pour le moment à l'Est du pays, si du moins les autorités congolaises sont en train de nous écouter, il faut qu'elles se soucient d'abord de la population se retrouvant à l'est du pays. Ce ne sont pas les moutons qui sont ici. C'est juste une population qui a un dirigeant. Et on ne peut pas accepter que la population dirigée par une autorité soit exterminée sur cette terre. Donc c'est une situation vraiment qui m'agace. Pour moi, dire que les combats ont encore repris, ce n'est pas une version que je peux accepter, mais les combats continuent. Donc ce n'est pas une nouveauté chez nous ici. Et on se demande finalement, est-ce qu'en face de nous, y a-t-il les autorités qui se soucient de nous, ou peut-être cet échec qu'on est en train de monter pour que la population de l'Est soit fatiguée, et elle ne se sent pas fatiguée, alors on peut dire, le plan de balkaniser le pays est devenu un plan effectif.
Merci Kamate. Le chef de l'État s'est adressé mercredi dernier devant les deux chambres du Parlement, réunies en congrès. Dans son discours, il a notamment annoncé la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale qui sera composé de la majorité, de l'opposition et de la société civile. On écoute Joseph Kabila parler de ce gouvernement de cohésion nationale.
Chers compatriotes, en ce qui concerne le gouvernement, je vous annonce que dans le cadre de ma politique d'ouverture prônée depuis mon investiture, un gouvernement de cohésion nationale sera bientôt mis en place. Ce gouvernement, il comprendra aussi bien des représentants de la majorité que ceux de l'opposition et de la société civile, et aura pour mission prioritaire le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État à travers le pays, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'appui au processus de décentralisation et à l'organisation des élections, et bien sûr à l'amélioration des conditions sociales des populations.
Harold Bellarmé Badibanga, je rappelle que vous êtes secrétaire de rédaction au journal L'Avenir, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Le chef de l'État a prononcé son discours au cours duquel plusieurs annonces ont été faites. D'abord, comment avez-vous réagi au contenu de ces discours? Avez-vous été surpris ou vous vous attendiez à ce qui a été annoncé? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est déjà entendu, il n'y a pas eu de nouveautés dans ce discours.
Tel que je connais le chef d'État, je ne pouvais pas être surpris dans la mesure où, primo, en tant que journaliste congolais de mon État, je sais que ce n'est pas devant le Congrès que des mesures exécutoires se prennent. Par exemple, lorsque certains pensaient que Joseph Kabila se présenterait par devant le Congrès pour dire « Désormais, Matata n'est plus Premier ministre, c'était l'autre qui le devient aujourd'hui ». Une mesure comme ça ne se prend que par ordonnance présidentielle, ne se fait jamais de manière langagière. À ça, je ne m'attendais pas et ce qui est arrivé ne m'a nullement surpris. Et de deux, lorsque j'ai vu la litanie des résolutions faites aux concertations nationales, 679 résolutions, et Kabila venir devant le Congrès, réuni devant les invités, répondre ne fût-ce qu'à une grande partie de ces résolutions en faisant des concessions, je dis bien en faisant des concessions par rapport pas à ce qu'il a voulu, mais par rapport à ce que les concertateurs ont voulu.
À la volonté des concertateurs.
À la volonté des concertateurs, je me dis, c'est celui-là, l'homme que je connais, que j'ai toujours appelé l'homme des concessions, dans la mesure où il a toujours voulu concilier les vues des uns et des autres lorsqu'il s'agit non seulement du bien de la République, mais de la volonté des autres pour que le souverain primaire en profite. Alors, je n'étais pas surpris, mais je me dis, la plus grande partie attend Joseph Kabila en tant que garant de la nation, en tant que président de la République, dans la mesure où le peuple a entendu lorsqu'il avait dit « Je vous ai entendu, je veux vous répondre ». Aujourd'hui, il a répondu. Maintenant, la population l'attend par rapport à la réalisabilité de ce qu'il a promis, encore que ça, c'est une précision de taille sur le plan de droit à donner. Les gens doivent se dire, toutes les résolutions doivent être coulées en force de se juger, c'est-à-dire sur le plan matériel, il y a des résolutions qui seront coulées sous forme d'ordonnance présidentielle, certaines sous forme de décret et d'arrêter au niveau des provinces.
Alors, apparemment, l'annonce du gouvernement des cohésions nationales, c'était ça l'enjeu de ces discours. Hein. Imaginez que le chef de l'État n'ait rien dit au sujet du gouvernement et comment les gens allaient réagir, parce qu'apparemment, la plupart de ceux qui étaient là n'attendaient que ce que Kabila dirait au sujet du gouvernement.
Cher ami, vous ne vous trompez pas dans la mesure où je vais au-delà de ce que vous avez dit. De toutes les réponses données par le chef d'État, il n'y a que celles relatives à la mise sur pied du gouvernement dit de cohésion nationale qui a été plus applaudie et même avec beaucoup d'empressement. C'est pour dire que cette résolution faite par les concertateurs émanait non seulement de l'opposition, mais aussi de la majorité, étant donné que il y en a qui estiment que, au regard des élections dites chaotiques, même si elles ne le sont pas du tout de 2011, il faut partager le pouvoir. C'est ainsi que c'est plus l'opposition qui l'a demandé et à elle, la société civile a emboîté le pas. Kabila le refuserait aujourd'hui. On aurait dit qu'il n'a pas besoin de la cohésion nationale. Mais comme c'est ça, le prix à payer pour avoir tout le monde autour de soi et gérer ensemble pour qu'on mette fin au cycle infernal de la crise à l'est de la RDC, il l'a fait. Je suis content.
Merci Innocent Kabukala. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de Global Télévision. C'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Comment vous avez analyser le discours du chef de l'État?
D'abord, il faut préciser une chose, c'est que quand nous prenons le contexte, il n'y a pas du tout de surprise. Parce que déjà, s'il faut considérer les concertations comme les prémices, la conséquence n'était que celle-là. Donc, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Donc, alors, c'est clair, il n'y a aucune surprise.
Voilà, alors, l'annonce de la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale, le chef de l'État l'a dit, c'est la réponse, n'est-ce pas, de Kabila à l'une des recommandations des concertations nationales. Pourquoi, à votre avis, les concertateurs ont estimé qu'il était nécessaire d'ouvrir davantage le gouvernement à l'opposition ainsi qu'à la société civile?
Il faut relativiser, là. Quand on dit que c'est l'opposition qui a demandé, l'opposition a demandé quoi? En journalisme, je pense que le plus important, ce sont des faits. Les faits, c'est que lorsque, en 2011, il y a eu des élections, on doit constater qu'il y a eu un vainqueur, et s'il y en a un, donc le vainqueur devrait gérer son pouvoir sur base d'un programme qu'il a présenté lors de la campagne, ainsi prétendre développer le pays et donc tenir ses promesses par rapport à la population. Donc, ce qui arrive maintenant, les cas, c'est que le programme qu'on a vanté n'a pas pu produire les fruits escomptés. Et par conséquent, le président de la République se trouvait dans une contrainte. Et donc, parler d'une demande expressis verbis de l'opposition, je ne crois pas. Ce que l'opposition demandait à l'époque, c'était que, à la suite des élections contestées, avec toutes les différentes 2011. Crises qui ont été, oui, 2011, toutes les crises qui s'en sont suivies, il était plutôt question que l'on se retrouve autour d'une table pour pouvoir gérer cette crise-là ensemble, c'est-à-dire normaliser le pays. Et c'était dans un temps et dans un espace.
À mettre en place un gouvernement
ce n'était de pas ça, ce n'était pas ça qui était demandé. Non, parce mais que, c'est dans parce la suite de temps.
Justement, les concertateurs ont estimé que non, mais la cohésion recherchée passait par la mise en place de ces gouvernements.
Vous permettez, les concertations sont arrivées plus tard, lorsqu'on a constaté que en avançant de cette manière-là, il n'y avait pas de résultats. Donc, je voudrais seulement situer les choses. Donc, à l'époque, la demande de l'opposition, c'était d'abord se retrouver autour d'une table pour gérer la crise qui était là. C'était une crise électorale. Donc, il n'y avait pas de problème d'un gouvernement d'ouverture ou quoi. Donc, ça pouvait venir par la suite. Donc, pour l'instant, lorsque maintenant on en arrive aux concertations, c'était quand on a constaté que la marche du pays ne répondait pas du tout et qu'il y avait des inquiétudes. C'est ainsi que il y a eu une partie de l'opposition qui a souhaité, à la demande, bien sûr aussi, d'une autre partie de la majorité, même si elle a été un peu cachée, parce que Harold l'a dit, il n'y avait pas que ceux de l'opposition qui avaient acclamé lorsqu'on a annoncé le gouvernement d'ouverture. Il y avait aussi une partie de la majorité. C'est que, quelque part, en coulisses, cette partie de la majorité a fait une coalition avec l'autre partie de l'opposition, parce que ce n'est pas toute l'opposition qui a demandé. Il faut nuancer les choses à ce niveau-là. Voilà qui a donné lieu à ces concertations, lesquelles concertations ne pouvaient qu'accoucher des résolutions qu'on a eues, et avec notamment la décision d'un gouvernement de cohésion nationale, comme le président de la République l'a dit.
À votre avis, vous pensez que la cohésion nationale tend recherché passerait nécessairement par ces gouvernements de cohésion nationale?
J'ai bien précisé, dans le contexte des concertations, on pense que la cohésion nationale serait trouvée à ce niveau-là. Alors, si je dois rester journaliste, je pense que la cohésion nationale, c'est aussi que pense la population à ces sujets. Alors, lorsqu'on interroge la population, mais j'ai comme l'impression que la population, si elle n'hésite pas, elle ne croit pas encore. Donc, il faudrait peut-être attendre, par exemple, que le nouveau gouvernement, parce qu'ici il faut considérer qu'on ne parle plus du gouvernement, du programme de campagne de 2011, maintenant c'est un nouveau programme issu des recommandations des concertations. Donc, lorsqu'on mettra ce programme-là en application, à ce moment-là, on verra bien la part de la population et on pourra lui poser la question moment-là. Parce que jusque-là, la population reste, en tout cas, sceptique. Elle aimerait bien voir. C'est pour cela que vous avez appris qu'il y a des gens qui parlent du déjà entendu, des discours qui viennent, et même certains politiciens qui pensaient que c'est plutôt un rendez-vous entre les nouveaux adhérents par rapport à une majorité. Mais un point de vue que je ne partage pas nécessairement. Mais il faut préciser aussi une autre chose. Guy Maté, je termine par là. Lorsqu'on dit que la nouvelle majorité est égale à l'ancienne majorité, non, je ne partage pas ce point de vue. Mais lorsqu'on veut justifier la nouvelle majorité en faisant une comparaison, c'est ce qui se passe ailleurs, notamment en France, où on a vu pour un gouvernement issu des élections, pour besoin d'une technicité, on a fait appel à quelqu'un et on transpose pour dire que c'est faisable. Là, il y a un problème.
Merci. Il faut rappeler que le chef de l'État a précisé que le programme en cours sera poursuivi. Dimanche Kamate, vous êtes journaliste à la radio communautaire Moto Oicha, émettant depuis Beni au nord au Kivu. Certains analystes estiment que la cohésion nationale, c'est entre les sommets et la base, entre la classe politique et la population, n'est-ce pas? Cette population qui doit se reconnaître dans cette classe politique et non entre les hommes politiques.
Oui, cher confrère, moi je voudrais juste soulever un point très important. Quand on me parle de la cohésion nationale, je me dis, dans ce groupe-là des conservateurs, il y a des gens qui ont dilapidé les finances de l'État, les finances publiques, les fonds de l'État pendant 5 ans. Il y en a ceux-là qui ont dilapidé les finances publiques pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Et aujourd'hui, on me dit, voilà, il faut former le gouvernement de l'Union nationale ici, des conservateurs. Je me dis, est-ce que c'est ce que la population est en train d'attendre? La population, chers confrères, la population congolaise entière n'a pas besoin d'une histoire pareille. Quelqu'un qui a soif, vous lui présentez par exemple un fusil. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui est en train de vous présenter ses cris d'alarme, il dit « je suis violé, je suis kidnappé », vous dites « voilà monsieur, il faut vous procurer les nouvelles chaussures ». Est-ce que vous ne trouvez pas que en face de nous, nous avons des dirigeants qui veulent prévoir des médicaments pour une maladie qui ne convient pas à ce médicament-là? Et donc, moi personnellement, je voudrais dire ceci. Il a fallu que l'on procède par la consultation populaire. Que veut la population? Est-ce que la population congolaise a besoin de cette formation d'union nationale ou la population congolaise a besoin des salaires décents? La population congolaise a besoin d'une paix bien assurée? La population congolaise a besoin d'une sécurité bien assurée? Mais ex abrupto, on nous dit, voilà, il y a formation des gouvernements d'union nationale. Et donc c'est aberrant. On peut conclure en disant c'est juste une façon de répondre aux besoins des enfants du pouvoir. Parce que la population congolaise, c'est une population qui a été tant meurtrie et jusqu'à aujourd'hui, elle continue à souffrir. Alors, il ne revient pas à ces gens qui ont pris part aux consultations. D'ailleurs, juste au début, ils étaient en train de réclamer que les montants proposés étaient insuffisants parce que on leur avait confié ces 30 dollars. Ils avaient déjà commencé à réclamer. Mais aujourd'hui, ils disent que bon, ce sont eux qui vont former le gouvernement de l'Union nationale pour essayer un peu de maintenir la paix, la sécurité dans toute l'étendue du territoire national. Donc, c'est une sorte d'aberration. Et nous devons dire clairement que nous ne sont pas contents de cette manière de gérer la population, surtout que ce pays appartient à tous les citoyens.
Merci Dimanche. Merci. Harold Bellarmé Badibanga, vous venez de suivre Dimanche, qui pense qu'il fallait procéder par la consultation populaire, n'est-ce pas, pour être certain que ce qui s'est fait serait l'émanation de la volonté de la population.
Le confrère a pleinement raison, mais je l'invite à aborder les questions de l'État avec l'âme d'État, non avec d'État d'âme. Et quand il fera ainsi, il comprendra qu'il y a un principe, c'est le principe de la représentativité. Je ne sais pas quelle différence il établit entre les consultations populaires et nationales, comme si ceux qui ont siégé en tant que délégués concertation nationale ne représentent pas leurs entités respectives pour parler de tous ces membres de la société civile, pour parler de tous ces notables des différentes provinces de la République, pour parler de tous ces chefs coutumiers, pour ne pas parler des partis politiques qui ont envoyé leurs représentants. Et donc, il ne fallait pas qu'on aille à Kabekamwanga chez moi, amener tout le village pour qu'ils viennent siéger aux concertations nationales. Il faut comprendre que c'est un principe, la représentativité. Et maintenant, je ne veux pas que l'on nous fasse comprendre ici que la proposition du gouvernement de cohésion nationale est une émanation de la majorité. Je donne ma main à couper, on ne coupera pas. Je comprends très mal qu'on fasse croire ça à nos auditeurs dans la mesure où la majorité ayant le pouvoir peut se réveiller un matin, dire opposition, société civile, venez, je dois partager le pouvoir avec vous. Non, c'est l'une des résolutions venues de l'opposition et le chef de l'État, pas en tant qu'autorité morale de la majorité, mais plutôt en tant que garant de la nation, en tant que président de la République, devait et a rencontré les propositions tant de la majorité que de l'opposition.
C'est l'une des résolutions émanant des concertations nationales. Or, ces concertations ont regroupé la majorité, l'opposition ainsi que la société civile.
Mais moi, journaliste, historien du présent comme Émile Zola m'appelle, j'ai un devoir d'investiguer les politiques, de voir en filigrane ce qu'a la majorité comme aspiration, ce qu'a l'opposition comme aspiration.
Merci.
Qu'on ne fasse pas croire aux souverains primaires ici que le programme du chef de l'État, qui se résume aujourd'hui en révolution de la modernité, doit connaître un tabula rasa parce qu'il y a eu des résolutions aux concertations nationales et qu'il y a un gouvernement dit de cohésion nationale. Ce gouvernement va travailler d'arrache-pied sous la houlette d'une personne qui a reçu mandat du peuple et qui a une vision, c'est la révolution.
Mais
un
gouvernement composite où il y a des libéraux, des sociaux-démocrates, où il y aurait même des marxistes-léninistes. Vous savez qu'il y a des partis communistes ici au Congo.
Voilà qui fait dire aux politologues en sciences politiques et administratives, on dit que le spécial de Roge au général, c'est aussi un principe de droit.
Merci.
Je veux tout simplement dire que chacun ne viendra pas avec un programme conçu avec son épouse et ses enfants.
Merci.
Il viendra matérialiser au gouvernement la vision du chef de l'État.
Heureusement, j'ai encore ma petite mémoire bien là, parce qu'on a dit que le spécial déroge au général. Donc, en général, c'est qu'il y a un gouvernement, quand il a gagné les élections, il gère généralement sur base d'un programme. Et donc, il me semble que c'est un programme tout à fait spécial. C'est normal. Alors, il y a un problème de consensus. Hein. Donc, je pense que le programme ici est consensuel. Il n'a plus rien à voir avec l'autre programme. Nous avons tous suivi le chef de l'État. Il a parlé d'un gouvernement de cohésion nationale. Et il a même dit, quelque part, si vous suivez tous les discours, il dit, j'engage le gouvernement de cohésion nationale à telle chose. Oui. Donc ça veut dire que c'est ce programme-là qui va être appliqué. Et non, la question que soulève notre confrère Dimanche
Kamati,
elle est fondée.
Procéder par consultation populaire.
Elle est fondée dans la mesure où le problème, c'est qu'il n'y a pas un problème de représentativité ici. C'est un problème de rupture entre ceux qui se devaient représenter et la base, tout simplement. C'est ça le vrai problème. C'est pour cela que ce problème-là de représentativité se pose. Donc, la base n'a pas confiance. Je vous donne un petit exemple. Je suis à bord d'un minibus, et alors que nous passions non loin du palais du peuple, il y a des barrières, quelqu'un pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y en a un qui répond pour dire, mais non, vous ne savez pas que le chef de l'État dormit ici, et quand il est là, on doit sécuriser. Alors que là-bas, on venait pour inaugurer les concertations. Donc, au moins 20 personnes à bord d'un bus n'étaient pas au courant qu'il y avait lancement des travaux de concertation. Simplement parce qu'ils ont manqué du courant. Donc, le vrai problème se trouve dans la population actuellement, qui est dans une rupture avec les délégués, et que par conséquent, la population ne se retrouve pas là-dedans. Voilà pourquoi le scepticisme continue à planer. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas être aussi pessimistes. Nous pensons que, bon, maintenant qu'il y a un nouveau programme, essayons de donner un peu de chance à ce nouveau programme pour voir ce que ça peut donner. Mais le scepticisme, il faut le comprendre, le vrai problème reste à ce niveau-là.
Merci. Lors de ce discours, le chef de l'État a aussi annoncé la signature mercredi matin d'une ordonnance portant mesures de grâce. On l'écoute.
Chers compatriotes, en matière de paix et de réconciliation nationale, je partage le vue des délégués aux concertations sur la nécessaire implication de toutes les institutions de la République. Dans cet ordre d'idées, j'ai signé ce matin une ordonnance portant mesures de grâce. J'ai également demandé au gouvernement, une fois terminée la libération conditionnelle de prisonniers civils, de procéder avec diligence à celle de prisonniers militaires et de déposer devant le bureau des deux chambres législatives le projet de loi portant amnistie. Ces mesures permettront, j'en suis sûr, d'instaurer un nouveau climat de confiance entre les Congolaises et les Congolais. Je voudrais cependant rassurer ce dernier que la quête de la cohésion nationale n'est pas synonyme d'impunité. Bien au contraire, sans justice, la réconciliation est factice.
En réaction, certains juristes et défenseurs des droits de l'homme jugent cette ordonnance non objective car, disent-ils, je cite, « la grâce présidentielle doit être individuelle et nominative ». Fin de citation. L'ordonnance du chef de l'État n'est pas claire, analyse par exemple maître Richard Bondo, président de l'ONG Avocats sans frontières en RDC. Dimanche Kamate, il y avait en fait une unanimité sur le fait que pour décrisper la vie politique en RDC actuellement, une mesure de grâce était nécessaire. Mais comment est-ce que à peine publiée, déjà cette mesure-là suscite des contestations.
Oui, cher prophète, j'ai pensé moi personnellement que les chefs de l'État, grand-rois de la nation, devraient citer nommément des personnes qui seraient bénéficiaires de cette mesure des grâces présidentielles. Mais curieusement, les chefs de l'État, je ne sais pas, c'était une façon peut-être de ne pas attiser le feu à l'intérieur, là-bas, parce que au moins, par exemple ici à l'Est, il y a des gens, je ne veux pas avoir des partis pris, mais au moins certains leaders d'opinion tels que Honorable Zaki, c'est juste quelqu'un qui était en train de remplir sa mission et toute la population de l'Est penser que ça sera une bonne occasion d'apprendre que un dirigeant et député un honorable comme celui-ci sera alors bénéficiaire de cette grâce présidentielle. Mais subitement, les chefs de l'État, je ne sais pas si c'est une stratégie, il n'a pas voulu citer nommément des gens qui seront bénéficiaires de cette grâce présidentielle. Autre chose que je peux ajouter, chers confrères, c'est une bonne chose s'il y aura une mise en pratique de ce qui a été dit par les chefs de l'État. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, il y a déjà une culture de dire, une théorie. Nous développons souvent la culture de la théorie, alors qu'il est toujours dit, sans véritable application, cette théorie reste toujours morte. Si le chef de l'État va procéder par l'application de cette grâce présidentielle, et pour moi, non, ça sera une très grande joie. Mais souvenez-vous, le chef de l'État, pendant un certain temps, il a dit, voilà, on ne va plus utiliser les carottes, on va utiliser les bâtons, les portes des prisons seront ouvertes, etc. Mais jusqu'aujourd'hui, on se demande, est-ce que toutes ces mesures, toutes ces discours-là qui ont été prononcés par les chefs de l'État, se sont-ils volatilisés dans la nature? Qu'est-ce que le chef de l'État est en train d'attendre pour appliquer ce que lui-même a dit? Et donc, si aujourd'hui il peut dire, changeons tous ensemble, et moi je serai le premier à changer,
merci.
Alors nous allons procéder aux applaudissements, ça sera pour nous quelque chose qui va plus nous enchanter.
Merci Harold Bellarmé Badibanga, la grâce présidentielle est accordée, mais de façon collective, ce que les juristes ne comprennent pas, selon eux, la grâce elle est individuelle et précise, l'on doit savoir avec exactitude qui a en bénéficie et qui n'est pas concerné. Est-ce que vous partagez ce point de vue de ces juristes? Je rappelle aussi que vous êtes aussi juriste.
Vous savez, le mal que nous avons dans ce pays, c'est de vouloir politiser tout, dans la mesure où il y a un principe général de droit qui dit « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ». Là où la loi n'a pas distingué, nous n'avons pas non plus le droit de distinguer. Lorsque l'ordonnance présidentielle est signée...
N'est-ce pas que l'ordonnance doit être précise?
L'ordonnance doit être précise, mais il y a un problème. Est-ce que dans sa matérialisation, vous savez, mon cher ami, que le chef de l'État peut signer une ordonnance aujourd'hui et on l'applique aujourd'hui. C'est faux, ça ne s'est jamais fait quelque part. C'est-à-dire qu'il appartient maintenant, comme l'ordonnance présidentielle n'a pas nommément cité certains bénéficiaires de cette grâce, il appartient maintenant non seulement au ministre de la justice, mais aussi à certains organes subsidiaires à la justice pour voir qui peut et qui doit bénéficier de cette grâce.
Et c'est là que se pose le problème. Qui vous dit que, en sélectionnant, n'est-ce pas, les personnes qui doivent bénéficier de cette grâce, les choses se passeront conformément à cette ordonnance présidentielle?
Et qui vous dit que le chef d'État n'a pas la clairvoyance pour savoir que dans les résolutions faites par les délégués, il y a effectivement des Congolais qui se retrouvent dans telle ou telle autre catégorie pour faire partie de cette ordonnance en tant que bénéficiaire?
bénéficiaires. Le mal dans ce pays, mon cher ami, c'est que le peuple est généralement, je parle pas du peuple très malheureusement, mais la population et même certains politiciens ont leur verdict dans leur poche, ont leur bénéficiaire de la grâce présidentielle dans leur poche, même si, nonobstant leur casquette de politicien, les infractions pour lesquelles ils ont été condamnés aujourd'hui n'ont pas été politiques. C'est pas au nom du fait qu'on est politicien, mais lorsqu'on vole une poule à côté, qu'on doit bénéficier de la grâce présidentielle. Si c'est cela qui est entendu comme base de la cohésion nationale, c'est de la masturbation intellectuelle.
Merci Innocent Kaboukala. Aujourd'hui, on ne sait pas dire avec précision qui bénéficie de cette grâce présidentielle. Il y en a même qui ont proposé qu'on puisse publier les listes dans les journaux officiels.
Malheureusement, c'est à cela qu'on nous amène, parce que finalement, tout le monde se souvient un peu de ces méthodes d'arithmétique là pour commencer à trouver effectivement des gens qui peuvent bénéficier selon que vous avez un frère, un proche ou qui là, vous dites bah, tiens, lui on avait dit c'était il avait 10 ans. Bon, par rapport à ce qu'on a dit, bon, on va lire l'article si je m'abuse 77 quelque chose comme ça la constitution sur cette grâce présidentielle. Bon, on va dire mais tiens, ça veut dire je fais le calcul, non lui il a déjà fait 8 ans, donc ça signifie comme on dit on peut réduire peut-être 5 ans, ça signifie que non lui sort. Et on commence à spéculer comme ça. Alors ça ne va pas. Je pense, si l'ordonnance peut passer pour un acte administratif, et donc un élément tout à fait technique, si je peux m'exprimer ainsi, mais je pense que le discours du chef de l'État, lui, reste quand même un fait politique. Donc, dans l'idée de cette cohésion, si tel est le cas, je pense, ça ne ferait pas du mal à personne si le président de la République pouvait s'y pas citer énormément, effectivement, au duo de la tribune du Congrès. Il pouvait, ne fût-ce que, donner quelques éléments qui pouvaient amener, par exemple, parler des prisonniers d'opinion politique, par exemple. Hein, ça pouvait davantage donner plus de vigueur pour une décision du genre. Alors quand on a senti que le président n'a pas donné beaucoup, qu'on aille au niveau de la technique, qu'au niveau politique, il ne semble pas trop parler de cette affaire.
Merci.
Alors les gens se disent, mais tiens, mais est-ce qu'il hésite encore? Est-ce qu'il ne veut pas de cela? Et bon, voilà, on comprend le scepticisme et pourquoi pas cette impatience dans le chef de plus d'une personne.
Merci. Le chef de l'État a aussi fait part de la nomination d'un conseiller spécial chargé de lutter contre la corruption. On écoute Joseph Kabila.
Quels que soient les efforts sur le plan du développement, notre économie ne saurait atteindre sa vitesse de croisière dans une ambiance de corruption, de détournement des deniers publics, de coulage de recettes publiques et d'enrichissement illicite. Une lutte continue s'impose dans ce domaine. Les mécanismes répressifs existants doivent être réactivés et de nouveaux sont à mettre en œuvre à court terme. J'engage donc les institutions à cet effet, notamment le Parlement et les assemblées provinciales, dans le cadre de leur pouvoir de contrôle. Pour ma part, j'entends procéder à la nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État en charge de cette question. Il aura pour mission principale d'assurer un monitoring permanent de l'évolution des patrimoines, ainsi que des cas de malversation, de corruption et d'enrichissement illicite. Dans les chefs de responsables politiques nationaux et provinciaux, de hauts fonctionnaires et cadres de l'administration publique, de mandataires publics et autres agents publics.
Dimanche Kamate, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio communautaire Moto Oicha, émettant depuis Beni au Nord Kivu. Pour lutter contre la corruption, faut-il nécessairement nommer un conseiller spécial, hein? Nous savons qu'il y a des structures qui existent et qui ont cette vocation. Pourquoi ne pas redynamiser ces structures, les réactiver, les rendre performantes?
Monsieur Kimate, le chef de l'État a dit, et bon, mais je me dis, est-ce que la nomination des conseillers spéciaux en matière de lutte contre la corruption peut laisser en sorte que la corruption disparaisse? Voyez-vous, monsieur, quelqu'un qui n'est pas bien payé, quelqu'un qui n'est pas bien rémunéré, est-ce que vous pensez qu'une telle personne peut ne pas répondre, peut ne pas recevoir une poule, par exemple, qu'on lui donne, peut ne pas recevoir une somme d'argent qu'on lui remette? Le seul moyen de lutter contre la corruption, c'est d'abord de mieux payer tous les fonctionnaires de l'État et en second lieu de partager équitablement les richesses nationales. Voilà les deux propositions que je te proposais qu'on puisse des solutions pour nous permettre de lutter contre la corruption. Parce que je me dis, il y a des ministres qui sont en train de détourner les fonds de l'État. Ils sont là-bas. C'est conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption. Il va commencer à faire enquête à partir de qui ? Est-ce qu'il va commencer à mener son enquête à la population ou il faut qu'il commence d'abord dans cette classe-là, dirigeante, parce qu'au moins la population, cette population-là est victime de cette mauvaise gestion, de cette gâchette financière qui est entreprise par ces mêmes autorités.
Merci Dimanche Kamate. Harold Bellarmé Madibanga, je rappelle que vous êtes secrétaire de rédaction au journal L'Avenir, c'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Vous venez de suivre Dimanche Kamate qui pense que la meilleure façon de lutter contre la corruption, c'est de commencer d'abord par améliorer les conditions de vie de la population.
Non, il est vraiment à côté le confrère dans la mesure où même dans les pays réputés être l'exemple de la bonne politique salariale, la corruption existe et à grande échelle. C'est pour dire que, d'ailleurs, comme un Kinoa Landa, que le mot corruption n'est pas venu de Chiluba, ma langue natale, pas de Lingala, pas de Kikongo, ni du Swahili. C'est venu de quelque part, à moins que l'on me dise que les Français sont mal payés aujourd'hui. Non, c'est une façon biaisée d'appréhender la chose. Je suis d'accord avec lui en partie. Lorsque je peux lui faire comprendre, et s'il peut être d'accord avec moi, que la lutte doit être prise in globo, c'est-à-dire une chose est de mieux payer les fonctionnaires, et une autre est d'établir un mécanisme de suivi, parce que nul n'est plus riche qu'il peut tout avoir, et nul n'est plus pauvre qu'il peut tout manquer. Même les plus riches se font corrompre et corrompre pour avoir de l'argent. Donc j'estime à mon humble avis que la décision du chef de l'État de nommer un conseiller spécial en termes de lutte contre la corruption ne peut que venir booster la lutte qui, du reste, a été déjà entamée depuis un temps pour qu'il n'y ait plus de corruption. Donc toutes les mesures sont bonnes pour qu'on arrive au bon résultat.
Merci. Innocent Kaboukala, je rappelle que vous êtes coordonnateur de Global Télévision, une télévision qui est mais depuis Kinshasa, les chefs de l'État déterminés à lutter contre la corruption, mais la question c'est celle de savoir comment ce conseil spécial pourra bien faire son travail dans un contexte où la corruption est devenue monnaie courante, où elle est même entretenue. Est-ce qu'il pourra être en mesure, n'est-ce pas, de résister face aux pressions?
C'est pourquoi j'ai dit tout de suite que si c'est pas dans un imaginaire là, le choix venait à tomber sur moi, j'y refuserais. Parce que c'est difficile, c'est très difficile. Regardez un peu l'immensité de la République démocratique du Congo. Un conseiller spécial pour cette question-là. Non, non. Le chef de l'État lui-même a dit, il faut réactiver les mécanismes, justement, à travers les organes chargés de contrôle. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons les assemblées provinciales. Donc, je pense
la Cour des comptes.
Tout ça. Mais le travail existe, il peut se faire à ce niveau-là. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit nommer ce conseil-là. Mais plutôt, c'est prendre en compte lorsque ces gens rentrent pour faire des contrôles et qu'il y a des mesures qui sont prises. Par exemple, chaque fois que l'on trouve des gens qui se sont rendus coupables de je ne sais quoi, et que pour ces gens, par exemple, si c'est le cas des ministres, on demande que ces ministres viennent s'expliquer et que ces ministres-là ne viennent pas. C'est ça le problème. Donc, moi je pense, personnellement, que ce travail-là est très compliqué. Bon, à moins que ça soit alors, c'est ça peut-être la petite inquiétude, hein, à moins que nous restions dans la logique qui veut que la cohésion soit vraiment totale, et que pour ça, il y a quand même 700 délégués, il faut dire, aux concertations, donc trouver quand même la place au gouvernement, ce n'est toujours pas facile. Peut-être aussi trouver un autre conseiller quelque part, et ça peut être du travail pour lui qu'on peut donner. Et dans une autre mesure, je me dis, mais est-ce que le chef de l'État est-il en train de rentrer encore à ce qu'il nous disait autrefois, qu'il n'a toujours pas réuni les 15 personnes pour pouvoir marquer sa confiance de manière à faire le travail? Est-ce que c'est ça le problème? Je me pose vraiment cette question, Guy Maté.
Merci, c'est la fin de cette émission. Bob Lando était à la technique et Kéline Couté à la réalisation. Sous la supervision de Martin Sabou-Jangoué, devant ses micros, Guy Maté. La rediffusion de cette émission, c'est demain à 4h15, heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Capi.